Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question de Petite Sœur Madeleine, que beaucoup d'entre vous, je crois, connaissez, ou à tout le moins, vous en avez entendu parler, puisque c'est un des grands personnages de ce siècle, tout en étant une petite sœur, qui est toujours voulu petite, et qui est morte il y a même pas 10 ans, elle est morte en 1989, c'est la fondatrice des Petites Sœurs de Jésus, les Petites Sœurs de Foucault. C'est le Père Voyaume qui a fondé les Petits Frères de Jésus. Il est toujours vivant, le Père Voyaume, on l'a même entendu à Radio Ville-Marie. Petite Sœur Madeleine a suivi, en somme, les traces de Charles de Foucault, qui avait eu l'intention de fonder comme ça, mais personne, malheureusement, ne s'est présenté avant qu'il ne soit assassiné, avant la fin de la guerre, 14-18, dans le désert, et je vous raconterai ça le 1er décembre. Car le 1er décembre, ce sera une émission consacrée à Charles de Foucault, justement, qui est un riche officier converti, qui est devenu moine et ermite. Hein? Il a été assassiné en 1916. Alors, Petite Sœur Madeleine, c'est la fondatrice de cette congrégation extraordinaire, très pauvre. Ces femmes que l'on voit parfois dans la rue, il y en a à Montréal, rue Berry, vêtues d'une robe bleue, bien ordinaire, très très ordinaire, en coton. Elles sont chaussées de sandales. Elles sont, on dirait, très légères. Elles se veulent d'ailleurs légères, dit-on, comme une bulle qu'un petit enfant peut envoyer dans toutes les directions. C'est ce que disait Sœur Madeleine. On les voit parfois, ici et là, on les voit pas tellement souvent, ne venez pas de cette chance. Elles sont présentes partout, à la surface de la Terre. L'exemple de Charles de Foucault, de son vrai nom, au fond, c'est le frère Charles de Jésus, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Eh bien, elles vont, de préférence, vers les plus pauvres, les plus défavorisés, vers ceux qui ne sont pas aimés. À travers 5 continents, oui, j'ai bien dit, 5 continents, il y a plus de 1300 petites sœurs qui sont réparties, peut-être dans 250 fraternités, je ne sais pas, au milieu de situations et de populations, puis de tâches et de travaux les plus divers. Elles s'emploient sans arrêt à annoncer, presque dans le silence, la bonne nouvelle, parce qu'elles l'enseignent par leur vie. Elles sont dans plus de 60 pays. Elles sont d'ailleurs originaires de plus de 60 pays. Je parlais hier à l'une d'entre elles, Petite Sœur Céline, une Indienne, du Kerala, de rite Siro-Malabar, car il y a, comme je vous l'ai dit bien souvent, plusieurs rites dans l'Église. Nous avons, nous, le rite latin, qu'on appelle le rite latin, même s'il est en français maintenant, et c'est le rite romain, si vous voulez. Et il y a une 20aine d'autres rites, et elle est de rite Siro-Malabar. Elle parle très bien français. Alors ces petits, tout petits, des mots qui reviennent toujours dans leur bouche, et dans la bouche de cette Petite Sœur Madeleine que j'ai connue. Ces termes se retrouvent donc sous la plume aussi, très souvent, de Petite Sœur Madeleine. Elle et ses compagnes veulent être des petites sœurs de rien du tout, comme elle dit. Et c'est pourquoi elles peuvent aller au bout du monde. On ne les craint pas. Ce ne sont pas de grands personnages. Elles sont admises partout. Quand ta Petite Sœur Madeleine l'approchait, là, c'est l'aimer. Moi, je l'ai aimé dès le premier instant que je l'ai vue à Rome. Oui, parce que dès le premier instant où je l'ai vue, il m'a semblé l'avoir toujours connue. Elle m'attendait, j'avais pris rendez-vous avec elle à Trefontane, en banlieue de Rome, dans leur fraternité générale, la maison générale, si vous voulez, édifiée à l'ombre d'une célèbre abbaye, de Trefontane, au milieu des cyprès et des eucalyptus. C'est une abbaye de trappiste. À 80 ans, Petite Sœur Madeleine, où elle avait bien, à ce moment-là, 86 ans quand je l'ai vue, Petite Sœur Madeleine, c'était en 1984, au début de novembre, justement, Eh bien, petite sœur Madeleine de Jésus soutenait encore moralement et fermement toute une congrégation dynamique, dont la moyenne d'âge n'excède pas beaucoup aux 40 ans. Toujours très droite, sans raideur, comme le frère Charles, qui lui était prêt à porter aussi l'Évangile aux extrémités de la terre tout en restant dans son désert. Il n'a pas eu cette chance. Eh bien, elle travaille depuis 40 ans, toujours, quand je l'ai vue à l'échelle de la planète. Je me souviens, il y avait quelques messes blanches qui s'échappaient de son foulard. C'est pas un voile qu'elle porte, c'est un foulard sur la tête, noué sur la tête. Un châle bleu foncé, qui tombe sur les épaules un peu. Ça soulignait la pâleur de son visage. Elle avait des pommettes saillantes. C'est un signe de ténacité. Elle avait des yeux gris-bleus extrêmement attentifs. Une expression qui reflète la bonté, la joie intérieure. Elle avait une présence qui marque les caractères bien trempés, qu'on n'oublie pas. Quand je suis allé, il y avait 450 sœurs qui venaient de toutes les parties du monde, qui étaient en réunion internationale importante. J'ai jamais vu autant de personnes joyeuses, heureuses, pauvres et dynamiques que ces 450 sœurs. C'était extraordinaire. Une des visions les plus belles que j'ai eues de ma vie. Elles ont un terme qu'elles utilisent, ou du moins Sœur Madeleine l'utilisait beaucoup, c'est le terme « petit Jésus ». Ça fait un peu cliché. Alors, elle explique, c'est pourquoi nous parlons, nous, du tout petit Jésus. Signe d'enfance spirituelle où la puissance de Dieu triomphe dans la faiblesse. Et ce petit enfant, eh bien la Vierge, dit petite sœur Madeleine, l'offre au monde. Ce geste est vraiment notre symbole. Et justement, elle m'a offert, à la fin de l'entrevue qu'elle m'avait accordée, comme ça, où j'étais à genoux à ses pieds, la suppliant de m'accorder une entrevue pour Rencontre à la télévision, elle s'est fait remplacer par petite sœur Annie, qui nous avait donné une entrevue extraordinaire. Eh bien, elle m'a offert un très beau livre, « Du Sahara au monde entier », écrit par elle-même, « Les petites sœurs de Jésus sur les traces du frère Charles de Foucault ». Il avait demandé un autographe, elle ne voulait pas. Une dédicace, non, elle a mis simplement son nom, PTE, Petite Sœur Madeleine de Jésus, 11 novembre 84. Elle m'avait donné les deux livres. Ce sont des livres extraordinaires qui racontent un peu ces voyages et ces choses. C'est assez intéressant à lire. Il y a des pages admirables. D'ailleurs, je trouve au début du livre des propos de Sœur Madeleine qui raconte ce qui suit. Je lis ce qu'elle écrit. « Pour moi, les épreuves succédèrent aux épreuves pour ralentir et même arrêter tout projet d'avenir. Et ce n'est qu'après 20 ans d'attente, que l'heure de Dieu a sonné, enfin. Attente combien douloureuse. Et elle ajoute 4 ans à cause de la guerre de 14, qui a décimé une grande partie de ma famille. Mes deux frères ont été tués au front. Ma grand-mère a été massacrée dans son petit village de la Meuse. La Meuse, c'est près de la Belgique. C'est de là qu'elle vient. Ma sœur, toute jeune religieuse, a été emportée par une méningite tuberculeuse. Suite à la grippe espagnole, qui a fait tant de victimes après la guerre, 10 ans aussi à cause d'une pleurésie tuberculeuse qui m'a laissé très affaibli. 6 autres années à cause de ma vieille maman, restée seule à la mort de mon père en 1925, et que je ne pouvais pas abandonner après les terribles épreuves qu'elle avait subies, car j'étais son unique soutien. Alors elle s'écrit 20 ans d'attente. Petite lumière, cependant, éclairait cette période sombre. La lecture de la vie du père de Foucault, de René Bazin. Vous avez peut-être lu ça, beaucoup d'entre vous, cette première vie de Charles de Foucault. D'ailleurs, elle ne l'appelle plus le père de Foucault, elle l'appelle le frère Charles de Jésus. Et elle dit qu'elle a donc lu cette vie de Charles de Foucault, en qui je trouvais tout l'idéal dont je rêvais. 2 points. L'Évangile vécu, la pauvreté totale, l'enfouissement au milieu des populations abandonnées. Et surtout, l'amour, dans toute sa plénitude. Jésus, amour. Mais, il n'est jamais pressé, lui, le maître du temps, ajoute Sœur Madeleine. Alors que pour moi, 20 ans, c'était un siècle. Alors, en 1928, tout en n'ayant pas du tout une vocation d'enseignante, j'ai accepté de prendre la direction d'une école libre à Nantes, auprès d'une congrégation religieuse, envers qui je voulais m'acquitter d'une dette de reconnaissance parce qu'elle elle l'avait reçue sans qu'elle ait à payer ses études au pensionnat. Mais je n'abandonnais pas pour autant, dit-elle, la certitude de partir un jour au Sahara, au désert. L'heure de Dieu sonna enfin, dit-elle. Mais que ces voix sont donc étranges et déconcertantes, et le grand obstacle à mon départ au Sahara avait été la maladie. Mais le Seigneur se joue bien de la logique humaine. En mars 1935, je commence donc à ressentir de violentes douleurs dans l'épaule gauche, et pendant toute une année, le mal s'intensifie au point de m'obliger, dit Sœur Madeleine, à suspendre toutes mes activités. Les diagnostics des médecins étaient partagés. En mai 1936, à la suite d'une nouvelle radio, le médecin de Nantes est catégorique. Il s'agit d'une arthrite déformante grave. Vous serez immobilisé dans le plâtre. Vous serez cloué sur un lit d'infirme. À moins que vous n'alliez vivre dans un pays où ne tombe jamais une seule goutte d'eau, comme... Et elle crie, « Le Sahara !» C'est ce qu'elle dit, « Il y a 20 ans que je rêve d'y partir. » Et le médecin lui dit, « Alors, n'attendez plus, car le mal est très avancé. » Elle lui dit, « Docteur, voudriez-vous mettre tout cela par écrit ?» Alors, elle raconte qu'il accepte de faire le certificat médical, et c'était le signe tant attendu par le prêtre qui, depuis 7 ans, mon conseiller prudent, avait jugé que c'était une folie pour moi de partir comme ça pour le désert. Mais depuis 1 an, la persistance de mon désir était devenue, pour son âme de prêtre, dit-elle, un véritable tourment. Et dès qu'il eut fini la lecture du certificat médical, ce prêtre me dit, avec une véhémence que je ne lui connaissais pas, « Partez vite !»« Oui, partez vite, n'attendez plus !» Partez sans vous demander ce que vous allez faire. Prenez un bateau à Marseille et débarquez à Alger. Là, vous trouverez certainement un prêtre qui vous demandera de l'aider. Vous le suivrez, mais ce ne sera pas encore le terme. Le bon Dieu vous prendra par la main et vous le laisserez faire, lui obéissant aveuglément sans l'ombre de résistance. Et si j'accepte, mademoiselle, votre départ, après m'y être tant opposé, c'est que j'ai obtenu le signe que je demandais à Dieu depuis plusieurs années. Je crois maintenant en votre vocation. » Et le prêtre ajoute, c'est ce qu'elle raconte, « Retenez bien toujours ceci. C'est parce qu'humainement vous n'êtes pas capable de rien que je vous dis avec tant d'assurance qu'il vous faut partir parce qu'au moins si jamais vous faites quelque chose, ce sera bien le bon Dieu qui aura tout fait. Car sans lui, vous ne pourriez rien faire. Rien. Absolument rien. » Alors toute la fondation, dit Sœur Madeleine, repose sur cette parole prophétique qui éclaire le mystère de cette longue et douloureuse attente. Il fallait détruire avant de construire et faire de l'instrument humain un instrument de faiblesse afin qu'à travers lui, Dieu puisse plus librement agir. Et le 6 octobre 1936, dans une joie débordante, je m'embarquais pour cette terre d'islam si désirée depuis 20 ans, avec ma première compagne et ma vieille maman, toute heureuse d'être du voyage, et qui partait avec le sourire, sans aucune appréhension. Mais dès notre arrivée à Alger, la rencontre providentielle de l'abbé de Clercq, curé de Bogary, nous oriente vers cette petite ville, située à 150 kilomètres d'Alger, pour y créer un centre d'œuvre en plein quartier musulman. Et le 15 octobre, donc 1936, on s'établit dans une très pauvre maison habitée par des familles musulmanes, dans la joie de suivre enfin les traces du petit frère Charles de Jésus. Chaque semaine, donc, 3 jours étaient consacrés là-bas au Sahara, au dispensaire pour soigner les malades, à l'ouvroir aussi, puis à la soupe des pauvres, et les 3 autres jours à de grandes tournées d'amitié à l'extérieur. D'abord à pied, puis à cheval, raconte Sœur Madeleine. En 1938, 2 ans plus tard, pour chercher à connaître la volonté du Seigneur, elle raconte qu'elles sont parties en pèlerinage à El Goléa, où devait avoir lieu le 19 mars la bénédiction de l'église Saint-Joseph. Saint-Joseph, construite auprès du tombeau de frère Charles de Jésus. Et elles y ont rencontré pour la première fois le père Voyaume, le fondateur des petits frères de Jésus. Il y avait là Monseigneur Nouet, le préfet apostolique de Gardaïa. avec qui Petite Sœur Madeleine était en correspondance au sujet du Sahara et présidait la cérémonie. Alors, elle parle à tous les deux de sa vocation à la suite du petit frère Charles de Jésus. Elle leur explique que leur vie actuelle n'y correspond pas réellement. Et Monseigneur Nouet répond qu'il va les accueillir au Sahara et s'il faut quitter Bogari où elles sont. Alors, en retournant là-bas, elles apprennent qu'une congrégation religieuse est prête à prendre en charge tout ce qu'elles ont commencé. C'est le signe de Dieu, c'est fantastique, vraiment un signe de Dieu. Elles n'ont plus qu'à partir, elles peuvent abandonner Bogari. Elles sont libres. Et ça a été, pour elles, un départ évidemment douloureux, puisqu'elles étaient profondément attachées, puis réciproquement, à ces gens qui, pendant 2 ans, avaient pris tous les instants de leur journée, et pour qui, surtout, elles avaient dû faire un grand sacrifice, de laisser la mère de Petite Sœur Madeleine repartir toute seule, d'abord à Alger, puis en France, parce qu'elle n'avait pas pu s'habituer à cette vie-là. À Alger, Petite Sœur Madeleine appelle Monseigneur Nouet. Elle lui rappelle sa promesse d'El Goléa, pour aller à El Goléa. Mais elle lui dit qu'avant d'aller au Sahara, elle voudrait d'abord passer quelques mois dans un noviciat religieux pour se préparer à mener une véritable vie religieuse, sans penser à rien d'officiel et surtout sans avoir l'intention de fonder une nouvelle congrégation. Ça lui est pas venu à l'idée encore. Ça l'a même pas effleuré. Elle se demande d'ailleurs comment elle en aurait eu l'audace. Et Monseigneur Nouet décide de leur admission au noviciat des Sœurs Blanches et Sœurs d'Afrique, comme on dit, à Saint-Charles-Birmandres, près d'Alger. Il veut les recevoir au Sahara comme des religieuses et non comme des laïques. Et il lui demande donc à Sœur Madeleine d'écrire des constitutions, et c'est la naissance là de la congrégation des Petites Sœurs de Jésus. En somme, décidée par la seule voie qui pouvait représenter pour elle la volonté de Dieu, c'est la voie de l'évêque. Elle pense alors qu'il s'agit seulement pour elle de fonder une fraternité de petites sœurs nomades au Sahara, consacrée exclusivement à l'islam, et vivant une partie de l'année sous la tente, pauvre, très pauvre. Or, le 8 septembre 1939, ça y est, le Seigneur en a décidé autrement. Elle fait profession avec Sœur Anne chez les Sœurs Blanches, quelques jours après la déclaration de la guerre, le 8 septembre 1939. Et ce jour du 8 septembre est considéré comme la date de la fondation des fameuses Petites Sœurs de Jésus, connues mondialement. Le 3 novembre, donc 1939, je vous rappelle qu'elle est née, elle, le 26 avril 1898. Alors, le 3 novembre 1939, elle a donc 41 ans. 2 mois après sa profession qui vient d'avoir lieu, le 8 septembre, la profession religieuse, qui marque le début de la nouvelle congrégation, donc, bien, Petite Sœur Madeleine intronise le petit Jésus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la première fraternité de Tougourte. Le 1er juillet 1941, elle lui consacre la congrégation tout entière dans le premier noviciat de Sainte-Foy-les-Lyons, en banlieue de Lyon. Je vous en ai déjà parlé. « Je te fais roi de ma chère petite famille, dit-elle, de ma chère petite famille religieuse. » C'est ce qu'elle dit à Jésus. Elle n'est plus à moi. Elle est ton royaume, ta propriété, faisant ce que tu voudras. Je la livre à ton amour. Comme dans les méditations puis les écrits spirituels de Charles de Foucault, on trouve souvent dans les lettres de Petite Sœur Madeleine, puis dans son d'hier, c'est-à-dire, si vous voulez, son journal, c'est-à-dire les notes qu'elle prend au cours de ses voyages, qu'elle tient aussi fidèlement depuis le début, d'ailleurs. Bon, on voit là des références à l'enfant Jésus. Ça peut nous intriguer aujourd'hui, à la fin du millénaire, ça risque de nous fatiguer même, l'enfant Jésus. Mais Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, ça voulait bien Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, ne l'oublions pas. Le 15 août 1942, elle écrit d'ailleurs à ses jeunes compagnes, « Ce matin à la messe, j'étais de nouveau tellement frappé de la place que Jésus, enfant, le tout petit Jésus, devait prendre chez nous. » C'est très... Écoutez bien ça, parce que ça explique, ça nous fait comprendre. « Votre cœur, vous l'avez tout donné depuis longtemps, mais vous avez gardé votre tête. De grâce, donnez-la aussi au tout petit Jésus de la crèche. Croyez-moi, ce n'est ni mièvre, ni sentimental, cette dévotion-là. C'est la dévotion des grands saints. On l'a vu chez Gaston de Ranty, dont je vous ai déjà parlé, et bien d'autres saints. Le petit Jésus, ajoute-t-elle, c'est un tout petit enfant, plein de douceur, plein de tendresse, plein de faiblesse et d'impuissances extérieures. Mais c'est Dieu, avec sa puissance et son intelligence infinie. Mettez votre main dans sa toute petite main. Fermez les yeux et laissez-vous guider, ce sera si bon. Alors, à plusieurs reprises, petite sœur Madeleine est revenue, sans le réfuter, sur cet aspect « mièvre et sentimental », entre guillemets, là, qui peut faire sourire les esprits forts. Elle dit « Faut pas dévier de cette route, tracée par Frère Charles de Jésus. » Elle cite « Être de toutes petites sœurs, aimantes, serrées autour de leur grand frère Jésus. » Que ces paroles, dit-elle, qu'il a si souvent répétées tout au long de son directoire, ne puisse pas vous paraître un jour quelque chose de mièvre, parce que vous serez devenue trop grande pour les comprendre. Alors, si pendant tant d'années, la fondatrice des Petites Sœurs de Jésus, Petite Sœur Madeleine, a répété les mêmes paroles, cela ne veut pas dire que la compréhension du message de la crèche, qui est la condition indispensable d'une vocation de Petite Sœur, en soit la condition suffisante. Car cette vocation comporte beaucoup d'autres éléments. Tout d'abord, la vie contemplative, centrée sur l'adoration du Saint-Sacrement et le culte du cœur de Jésus. Elle porte d'ailleurs le cœur de Jésus sur la poitrine. La pauvreté laborieuse aussi, c'est un élément important pour elle, la pauvreté laborieuse. Elle travaille en étant pauvre. Des travaux manuels. Il n'y a à peu près qu'une sœur sur 10 qui n'en fait pas. Elles sont à l'exemple de Jésus ouvrier à Nazareth. Il y a troisièmement l'offrande à l'immolation. Pour que tous les humains aillent au ciel. C'est une immolation d'amour, toujours. Hein? C'est très difficile à comprendre pour nous à la fin du XXe siècle. C'est une immolation d'amour, une offrande, disons. Elle s'offre dans l'obéissance, dans la chasteté, dans le dévouement, dans la pauvreté, dans le sacrifice. Joyeux! Toujours joyeux, hein? Elles ont le sourire aux lèvres constamment. Hein? C'est l'obligation de travailler à faire régner entre les hommes au-dessus des divisions de classe, des nations et de races, l'unité dans l'amour du Seigneur. Hein? Elle dit aussi, petite sœur Madeleine, mais si je me suis étendue davantage sur l'enfance spirituelle et le message de la crèche, si j'ai attiré constamment l'attention des petites sœurs sur cet aspect de notre spiritualité, c'est parce que les âmes qui veulent se consacrer à Dieu dans la vie religieuse, pensent peut-être plus naturellement au Christ du calvaire ou de la résurrection qu'au petit Jésus de Bethléem, et que le mystère de la crèche est un des plus déconcertants pour la raison humaine, et surtout pour l'orgueil humain. C'est plus encore parce que l'enfance évangélique est avant tout un esprit qui doit imprégner tous les autres aspects de la spiritualité des petites sœurs de Jésus. Et elle ajoute, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas, hein? Parole de Jésus dans Saint Marc au chapitre 10, verset 15. Mais cette simplicité, cette docilité n'empêche nullement les petites sœurs de découvrir toute la grandeur cachée sous les dehors de la petitesse. Elles se reconnaissent dans la joie du vieillard Siméon, hein? Puis dans la parole de Saint Paul, la puissance de Dieu triomphe dans la faiblesse. Elles se reconnaissent dans la phrase de Charles de Jésus, « Dieu est le maître de l'impossible ». Elles se reconnaissent dans Thérèse d'Enfant Jésus de la Sainte Face. Elles se reconnaissent aussi dans la Sainte Vierge, de la Visitation. Les petites sœurs ont reçu l'audace d'affronter les distances et les dangers. Longtemps nomades avec les Arabes et les Touaregs, prisonnière volontaire derrière les barreaux, à tel point qu'un jour des visiteurs se sont demandé « Qu'a pu bien faire cette religieuse pour se trouver là en prison ?» Elles vivent au milieu des prostituées. Elles partagent l'opprobre des gitans. Elles gagnent les glaces de l'Alaska chez les Esquimaux. Ou bien la forêt tropicale où sont réfugiés les pygmées au Cameroun. Elles s'installent sur des jonques dans la mer de Chine. Ou bien sous les tôles chaudes et brûlantes des bidonvilles. Afin de ne pas restreindre le message de la crèche au temps de Noël, elles vont chaque jour le porter à ceux qui ne l'ont jamais reçu ou l'ont oublié, car elles ont le désir d'être comme un sourire sur le monde, ces petites sœurs de Jésus, un rayon de lumière et d'espérance au milieu de la souffrance d'un univers qui est rempli d'injustice et si rempli de violence. Et elle dit, petite sœur Madeleine, quand on lui dit qu'on l'admire ou quelque chose, qu'on la remercie, elle disait toujours, c'est frère Charles de Jésus qui a tout fait. C'est lui notre vrai fondateur. Frère Charles ne s'est pas trompé, en tout cas, sur le choix de ses disciples. Rien ne semble prédisposer, tant elle est jeune, sœur Madeleine, à la tâche immense qui va être la sienne. Elle est originaire de la Meuse, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure. C'est près de Verdun, c'est pas près de la Belgique, là où la guerre 14-18 a été terrible. La guerre, l'invasion allemande, elles lui ont enlevé d'ailleurs une partie de sa famille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle a même connu pendant 10 ans la maladie, vous vous souvenez. Et bien qu'elle ait toujours voulu être religieuse, elle se demandait depuis longtemps où elle pourrait trouver une congrégation qui lui permette de vivre une existence contemplative au milieu du monde. Et au cours d'un voyage, elle a donc fondé, comme vous savez, les Petites Sœurs. Puis, au cours d'un voyage en France, sœur Madeleine y retournait chaque année pour voir sa mère, qu'elle a, au début, amenée à Bogary, vous vous souvenez, mais qui ne pouvait pas vivre au Sahara. Eh bien, les deux petites sœurs qui sont restées bloquées par le débarquement allié en Afrique du Nord, sœur Madeleine, elle, décide d'entreprendre une tournée de conférences en France avec projection d'un petit film afin de faire connaître la fraternité puis de récolter des fonds pour son noviciat. Et à Marseille, il lui arrive quelque chose de merveilleux. Une jeune fille de 24 ans, prénommée Jeanne, écoute un soir la conférence. Elle a lu la vie de frère Charles. Et elle cherche une congrégation qui lui permette de vivre cet idéal, comme tant de jeunes filles aujourd'hui cherchent. Mais elle ne voit pas de sœurs, elle ne voit que des laïcs dans notre société, elles ne savent pas où aller. Alors elle rencontre sœur Madeleine. Elle la suit. Lorsqu'en 1949, petite sœur Madeleine donne sa démission du généralat, déjà, eh bien, c'est cette Jeanne qui est devenue sœur Jeanne, petite sœur Jeanne, qui lui succède et qui assure ce poste pendant 20 ans. Extraordinaire, hein? Jusqu'à ce qu'en 1970, elle soit remplacée à son tour par petite sœur Annie, que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer à Rencontre. C'est une interview que j'avais tournée à Rome le 4 novembre 1984. C'est un des plus beaux jours de ma vie où j'ai rencontré vraiment une grande sainte, à mon avis. Elle était responsable générale jusqu'en 1981. On a pu s'étonner, en constatant son extraordinaire activité, que petite sœur Madeleine ait abandonné ses fonctions en 1949. Elle dit « J'ai démissionné parce que je voulais être libre pour les fondations lointaines. Et puis, je suis souvent malade. Je me disais sans cesse, je vais mourir, puis la congrégation va rester sans tête. Or, la congrégation devait pouvoir vivre sans moi. Alors, il n'est souvent rien de mieux résistant que les santé fragiles, ça arrive. Hein? Petite sœur Madeleine n'évoque aucune idée de faiblesse. Quand on l'a vue, on s'en souvient toujours. Visage énergique. Ça suffit à écarter le soupçon malgré sa grande vieillesse, quand je l'ai vue en 84. Imaginez que toute sa vie de religieuse, on peut dire qu'elle se couche à 2 heures du matin, après avoir répondu à toutes les lettres et travaillé aux écrits de la fraternité. Son bureau est rempli de documents et de livres. Elle répond toujours de sa propre plume aux petites sœurs, le plus souvent sur leurs propres lettres, qui ainsi leur reviennent. Seules les petites sœurs ont le droit de l'appeler ma mère. Et c'est vrai qu'elle a vraiment l'air d'une mère au milieu de ses filles. Elle disait d'ailleurs, il y a une extraordinaire unité entre nous. Et cette unité, bien, elle est faite aussi d'affection. À telle enseigne qu'elle se tutoie, c'est assez surprenant. Elle se tutoie toutes entre elles. On voit ça de plus en plus dans les communautés d'ailleurs, un peu partout, ici du moins au Québec. Et sœur Madeleine ne fait pas exception, d'ailleurs elle tutoie elle aussi. En France, c'était surprenant. Vers la fin de la guerre, 39-45, elle a prononcé plusieurs centaines de conférences. Petite sœur Madeleine se montre très pressée de se rendre d'abord au Sahara. Elle voyage, un voyage qu'elle accomplit dès septembre 1944, puis à Rome, où elle se rend en décembre de la même année. Et on lui assure de divers côtés que le Vatican n'acceptera jamais que des religieuses vivent sous la tente ou travaillent en usine pour y assurer la vocation de présence et de contemplation exprimée par frère Charles de Foucault. Et il faut bien convenir que ces vues sont alors plutôt révolutionnaires, très révolutionnaires même. Et c'est compté sans les ressources de l'Esprit-Saint. Regardez l'aventure de Saint-François d'Assise des siècles plus tôt. Regardez l'aventure de Sainte-Marguerite Bourgeois qui a fondé cette communauté sans clôture, sans cloître. Alors l'Esprit-Saint, mais il est capable de renouveler les formes de l'apostolat. Puis il y a aussi la ténacité de la fondatrice, sœur Madeleine. Et de fait, en décembre de la même année, 1944, elle est reçue sans difficulté par Monseigneur Montini, ça vous dit quelque chose, hein, le futur pape Paul VI, qui la comprend tout de suite et qui l'encourage dans son désir de voir Pie XII sans délai. Et au lieu du pape sévère qu'on lui a dépeint, elle trouve, je m'en souviens de ce pape, un pasteur très compréhensif et très bon, qui l'appuie de toute son autorité paternelle. Quand j'ai rencontré Pie XII, je m'en souviens, quelle douceur, quelle bonté, quelle bienveillance. Petite sœur Madeleine, il rencontra en 1950. Petite sœur Madeleine n'a pas craint, avec une audace stupéfiante pour l'époque, de présenter trois suppliques à Pie XII, dont l'une est intitulée « Nos plus chers désirs », afin de lui demander l'autorisation de vivre un idéal de pauvreté. Et à ce moment-là, aucune congrégation n'avait le droit de se fonder sans capital, sans argent. Or, les plus chers désirs de sœur Madeleine et de ses compagnes, c'est de pouvoir rester toujours des petites sœurs de rien du tout, que personne n'ait jamais l'idée d'appeler des révérendes mères, qui puissent, sans choquer personne et sans se faire reprocher leur manque de dignité, eh bien vivre, être logées, voyager à la manière des plus petits, comme Jésus qui n'a rien perdu de sa dignité divine en prenant l'humanité d'un pauvre artisan à Nazareth. Avoir le droit d'être, comme Jésus, réellement des pauvres, vivant de l'humble travail des mains et d'aumônes, sans dot, ou sans dot, ni rente. Ne pas laisser aux laïcs seuls le privilège de se dépouiller quand ils le veulent pour suivre le Christ pauvre. Et ne pas faire vœu de pauvreté pour être obligé de prévoir l'avenir et être sûr de ne manquer de rien, comme elle dit. C'est elle qui parle. Et elle ajoute, nous faisons toute nôtre cette parole de frère Charles de Jésus, être riche, à son aise, vivre doucement de ses biens. Quand vous avez été pauvre, gêné, vivant péniblement d'un dur labeur, pour moi, je ne le puis, mon Dieu. Je ne puis aimer ainsi. Je me garde bien de juger personne. Si d'autres congrégations n'ont pas ces règles, c'est qu'elles ont d'autres aspects de la vie du Christ à personnifier. Mais à nous, de grâce, laissez-nous sa pauvreté. Il est d'ailleurs remarquable que, conformément à ce qui est dit dans l'Évangile, la providence de Dieu n'abandonne jamais ceux qui ne se soucient pas du lendemain. Pauvres, les petites sœurs ont survécu et n'ont jamais, jamais manqué du nécessaire, non seulement pour elles, mais pour ceux qui les entourent. Au début, à Tougourte, les nomades disaient à sœur Madeleine, avec une tristesse touchante, « Dommage que tu ne sois pas musulmane. Tu irais au ciel avec nous. » Oh, j'ai le goût de dire que j'ai une grande nouvelle à annoncer aux musulmans. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens au ciel. On en parle presque tous les jours. Mais oui, nous serons au ciel. Je l'espère en tous les cas. C'est en 1947, donc, il y a plus de 50 ans, que petite sœur Madeleine commence ses périples autour du monde afin de choisir les emplacements des futures fraternités. C'est toute une tâche. C'est quelque chose d'incroyable. Elle a l'intention de prendre contact avec les évêques, ne fût-ce que pour obtenir leur accord, puis d'aller vers les plus pauvres, ceux vers qui on ne va pas, pour montrer à tous qu'il est possible de s'aimer. Lorsque Sœur Annie, que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée à rencontre à la télévision de Radio-Canada, lorsque Sœur Annie part pour le Japon à 26 ans, l'évêque du lieu au Japon pense que c'est une folie d'envoyer de si jeunes sœurs pour une fondation. Il en est de même lorsqu'en 1950, persuadé qu'aucun missionnaire n'irait jamais chez les 50 tapirapés du Brésil, une petite tribu, eh bien les petites sœurs s'y établissent, à la surprise générale du monde entier. En 1950, petite sœur Madeleine traverse tout le Sahara en voiture, jusqu'au Cameroun. Elle s'intéresse aux pygmées. Deux ans plus tard, d'Afrique, elle gagne le Proche-Orient, l'Irak, l'Iran. Puis même l'Extrême-Orient, l'Inde, le Vietnam, l'Australie. Des voyages pleins de péripéties. Faut lire ça dans ses livres qu'elle m'a donnés, là. Ils sont publiés aux éditions Nouvelle Cité. Petite sœur Madeleine de Jésus, du Sahara au monde entier. Puis l'autre, c'est d'un bout du monde à l'autre. Le plus remarquable, c'est que la congrégation continue de grandir. Et lorsque petite sœur Madeleine revient en France, en 1954, au Tubet, où il y avait la maison généraliste, il y a de très nombreuses regardants, c'est-à-dire des candidates au postulat. Un nombre qu'on aurait pu imputer à l'engouement habituel qui favorise les nouvelles fondations, mais le recrutement continue, là, si bien que c'est 20 à 30 jeunes filles qui chaque année enfilent à leur doigt, leur annulaire, de la main droite, la bague d'argent de leur mariage avec le Christ, et qui mettent à leur cou la petite croix ornée seulement d'un petit cœur rouge que Charles de Jésus a dessiné. C'est en 1956 que, voulant installer la Fraternité Générale à Rome pour bien marquer le caractère international de sa congrégation, la petite sœur Madeleine s'y met en quête d'un terrain, puis elle a l'idée de confesser son extrême pauvreté à Don Domenico, ou Don Domenico si vous préférez, le père abbé de Trefontane, qui est aujourd'hui, on le sait, un monastère trappiste rattaché à la Grande Trappe de Soligny. Et j'ai parlé de l'abbé de Rancé il y a quelques jours, hein, qui était là. C'est là qu'il a réformé les cisterciens, qui sont devenus des trappistes. Eh bien, Trefontane est un haut lieu de la chrétienté. Saviez-vous ça? Qui porte encore les traces et les souvenirs d'une très riche histoire. C'est là, écoutez bien, que saint Paul a subi son martyre. Et écoutez ça, c'est intéressant. Selon la légende, sa tête tranchée aurait rebondi trois fois, suivant probablement la dénivellation du sol, et ça aurait donné naissance à trois sources ou fontaines, très fontanées, trois fontaines, qui n'ont été scellées qu'assez récemment. C'est là aussi que Saint Zénon, le tribun, y a trouvé la mort, avec 10 000 soldats, raconte-t-on. Saint Bernard a eu, selon la tradition, sa vision d'une échelle par laquelle les âmes du purgatoire, libérées en partie par le saint sacrifice de la messe, montent au ciel. Et c'est pourquoi la petite église où s'est passé l'événement s'appelle Scala Coeli, l'échelle du ciel. Alors rien de plus émouvant que de fouler c'est les larges pierres, les larges pavés romains. Je ne sais pas si vous connaissez ça, que les martyrs ont arrosé de leur sang ou de voir le cachot sinistre où Saint-Paul a été enfermé. Alors, l'histoire complète de l'abbaye jusqu'au jour où les trappistes s'est installé en 1868, ça mériterait toute une émission spéciale. Et petite sœur Madeleine de Jésus, qui est rendue là à Trefontane et qui connaît la dévotion particulière des trappistes, des fils de Saint-Bernard, au fond, hein, pour la Sainte Vierge, une dévotion qui rappelle sans cesse les monuments puis les fresques là, très fontanées. Elle montre au père abbé, Don Domenico, son image préférée de Marie qui offre son enfant au monde. Et le père abbé demande à réfléchir. Quelques jours après, il est très touché par l'image. Et il offre, avec l'accord de son conseil, le choix entre trois terrains. Les petites sœurs choisissent celui qui se trouve en face du lieu où se déroule un pèlerinage à la Vierge. Celui qui voit aujourd'hui au sommet là, d'une petite côte pierreuse et assez jolie, il y a des beaux arbres, Tout ça part de la Via Laurentina. On voit la colline, là, où parmi les eucalyptus, on voit les pins parasols, les cyprès, on voit les chalets en bois, des petites serres. On ne peut pas s'imaginer comment se présentait en 1956, il n'y a pas si longtemps, au fond. Ce morceau de terre est presque de jungle ou de monstrueux échevaux de ronces, de 30 mètres même, de haut, avait fini par engloutir jusqu'aux arbres. C'était terrible. Et aidé par des séminaristes, les petites sœurs, heureusement pleines de jeunesse et de vigueur, elles se sont fait un devoir de défricher puis de construire. Puis la quantité de terre déplacée a représenté la charge imaginée de centaines de camions. L'endroit était aussi percé de grottes naturelles. Et l'une d'elles a été transformée en chapelle. Une autre a été creusée pour faire un dortoir où les sœurs se reposent, en attendant leur tour d'adoration de nuit, car elles font l'adoration la nuit. On entend en dessous, quand on est dans cette espèce de maison, ce couvent, la rumeur incessante, parce qu'il y a une grande circulation sur la Via Laurentina. Le monde est là, tout près. Elles sont tout près d'une abbaye de trappistes. C'est un endroit exceptionnel où a vécu tant d'années petite sœur Madeleine de Jésus, qui est morte là comme une sainte, une grande sainte, le 6 novembre 1989. Elle disait, de façon si merveilleuse, « Je rêve d'un amour, comme je ne l'ai pas encore vu expliqué dans un livre, surtout comme je ne l'ai jamais vu recommandé dans des conseils aux religieuses. D'un amour qui soit à la fois divin et humain. Je rêve qu'on puisse donner beaucoup de tendresse à tous. Une tendresse qui soit si divine tout en sortant d'un cœur humain qu'elle n'entraîne pas fatalement le désordre des sens. Pourquoi ne peut-on pas aimer ardemment en même temps que très purement? Croyez-vous que ce ne serait pas réalisable? Pourquoi, parce qu'on est religieuse, doit-on plus fermer que plus ouvrir son cœur? Non seulement dans le fond, mais dans l'expression. Je vous assure que le monde a besoin d'amour. Je voudrais aimer tous les humains du monde entier. Je voudrais mettre une étincelle d'amour dans chaque coin du monde. En Égypte, au Brésil, bientôt au Japon, une étincelle. Cela fait des incendies de forêt en Provence. Pourquoi cela ne créerait-il pas des brasiers dans le monde entier? Oui, je suis toute petite, toute pauvre, toute craintive dans le fond, mais je crois que le Seigneur me confie de grandes choses et qu'il me faut avoir de l'audace, beaucoup d'audace, dans la voie de l'amour. Je crois de plus en plus que nous ne sommes pas faites pour notre perfectionnement personnel ni pour fonder de belles fraternités bien organisées. Notre rôle est beaucoup plus de défricher et de semer. Le monde entier nous appelle. La foi s'en va, la charité s'éteint parce qu'on ne trouve pas assez de véritables foyers d'amour fraternel. On en a assez de la grande charité tout court. On a trop besoin d'amitié, de tendresse. Et si on ne la trouve pas dans la religion du Christ, chez les intimes amis du Christ, eh bien on la cherchera ailleurs. Croyez-moi, je n'ai pas perdu la raison. Je pense seulement qu'il faut une méthode tout autre, pas nouvelle, ancienne plutôt, celle de Jésus lui-même avec ses 12 apôtres. Il les envoyait deux par deux. Et pourtant, il n'était pas si extraordinaire que cela avant la Pentecôte. Je ne suis rien, mais Jésus m'a donné une toute petite étincelle de son amour. Il ne faut pas continuer à laisser des êtres souffrir autour de soi et ne pas aller vers eux sous prétexte de se préserver, comme un soldat qui, pour garder sa tenue impeccablement nette, éviterait la boue des tranchées et la blessure des balles. On lui demandait, si vous aviez recommencé, feriez-vous autrement? 87 ans, vous sentez-vous toujours jeune? Puis elle dit, si j'avais recommencé ma vie, je ferais pareil, avec, je l'espère, beaucoup plus d'amour, et en essayant d'éviter les maladresses. Pourquoi le cœur gémirait-il quand le Seigneur le soutient? Et qu'on s'approche de cette rencontre avec lui, si désirée, si attendue. Quand elle est décédée, il y a eu les funérailles le 10 novembre 1989 à Rome, à Trefontane. Le Père Voyon m'a dit l'authenticité de la mission de fondatrice de Petite Sœur Madeleine fut reconnue par l'approbation solennelle et définitive donnée par l'Église à la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. Écoutez bien, le 25 décembre 1988, oui, le jour de l'enfant dans la crèche. Noël. Malgré tout, ajoute le Père Voyaume, ou le frère René Voyaume devrait-on dire, malgré tout, l'Église ne peut définitivement reconnaître et authentifier une mission de fonder dans la personne qui a reçu une telle grâce de Dieu avant que la mort ait apposé son sceau à cette mission. Or, désormais, nous pouvons affirmer que la vie de Petite Sœur Madeleine de Jésus, ses enseignements et sa vie nous ont été donnés comme une parole de Dieu dans la vie de l'Église. Depuis que l'Église a été fondée par Jésus sur le fondement des apôtres, l'Esprit-Saint ne cesse de la guider en suscitant en elle des hommes et des femmes qui deviennent source de vie, manifestant ainsi la vitalité de ce sacrement du Christ qu'est l'Église. C'est vrai que partout, même ici au Québec, c'est plein de gens généreux et merveilleux dans l'Église. Et aussi dans l'Église orthodoxe, car le père Alexandre Maine, dont je vous ai parlé le 9 septembre 1997, eh bien, il est parti de Rome, de Russie pour venir à Rome vénérer Petite Sœur Madeleine quand elle est morte. Et il a dit qu'elle était extraordinaire en se mettant au service des autres. Parce qu'il a dit, il a dit aussi, le monde d'aujourd'hui est déchiré par la haine et la seule chose qui peut le vaincre, c'est l'amour. L'amour le plus fort, c'est l'amour évangélique. Ce pauvre père Maine, qui a été assassiné l'année suivante, le 9 septembre 1990,